Mardi 26 janvier, 10 syndicats d'enseignants appelaient à la grève pour protester contre les suppressions d'emplois et pour demander une revalorisation des salaires. Nous avons interviewé dans notre studio à Lens un professeur des écoles, David Blotio. Bonjour Monsieur David Blotio, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Alors, je m'appelle David Blotio, je suis co-secrétaire départemental du SNUIPP-FSU, le premier syndicat de l'enseignement du premier degré nationalement. Et je suis également enseignant dans une école de Salomine.
En deux mots, qu'est-ce qu'un syndicat ?
Alors, en deux mots, c'est compliqué. C'est une organisation qui regroupe du coup des enseignants et on est là pour améliorer leurs conditions de travail, défendre leurs revendications, les faire porter dans les oreilles du ministre.
Selon vous, qu'est-ce qu'une grève ?
C'est un moyen, on va dire, un des derniers recours qu'ont les salariés, hein, nous, entre autres ici les enseignants, pour faire entendre leurs revendications. Donc on arrête de travailler pendant une journée et on manifeste notre mécontentement.
D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi faites-vous grève ?
Alors, la question est difficile, parce qu'il y a quand même plusieurs raisons. Mais pour résumer, nous appelons à la grève aujourd'hui parce qu'il est urgent pour l'école d'obtenir les moyens nécessaires à son bon fonctionnement.
Alors moi, je suis un élève en classe de 3e, comme Luc vous l'a dit, et je vois que certains élèves, pas tous, mais certains ne respectent pas la distanciation. Alors pour vous, le protocole sanitaire et les 1 mètre de distanciation sociale dans les écoles, lycées, collèges et cantines sont-ils bien respectés ?
Alors non, la distanciation, alors moi je suis enseignant en école. En école, il est impossible de mettre en place cette distanciation parce que tout simplement, nous avons des effectifs chargés dans les classes. Au mieux, on est 20, au pire, il y a des classes à une trentaine d'élèves. Donc la distanciation n'est pas respectée dans les écoles, c'est impossible.
Et si les règles ne sont pas respectées par les élèves, quelles sanctions sont prises ?
Alors, on ne prend pas réellement de sanctions. Généralement, les règles qu'on peut mettre en place et qu'on peut faire respecter. Hein, la distanciation n'est pas une règle stricte du protocole dans l'école. Le ministre a fait alléger les protocoles et cette distanciation n'est pas une règle stricte. Généralement, il suffit de faire un rappel à l'ordre et les élèves en tiennent compte. Maintenant, des élèves de 6 ans qui portent le masque, c'est toujours difficile de leur faire le laisser sur le nez toute la journée.
Et comment faites-vous si vos élèves sont en décrochage scolaire ?
C'est une question assez difficile aussi. Généralement, dans les classes, quand on travaille dans les classes, que ce soit en période de là, en période de crise sanitaire ou en période classique, on différencie notre travail pour essayer de les raccrocher au groupe classe. Ce n'est pas la crise sanitaire qui change notre travail à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours difficile avec le masque, en faisant attention à tout ce qui est utilisation du matériel, nettoyage, désinfection. C'est un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais on continue de travailler comme d'habitude.
Alors maintenant, une petite question tabou. Avez-vous eu le même salaire en distanciel qu'en présentiel ?
Oui, on n'a pas perdu de salaire quand on a travaillé à distanciel. Maintenant, le matériel qu'on a utilisé chez nous, c'est le nôtre personnel. On n'a aucun matériel prêté par l'Éducation nationale, pas d'ordinateur, pas de casque, pas de micro, pas d'imprimante, pas d'encre. Tout ça, c'était avec notre propre matériel. Et c'est l'une des revendications que l'on fait pour cette grève.
Alors maintenant, je vais donner la parole à Luc qui voudrait vous poser quelques questions sur le plan d'urgence.
Merci Erwan. Donc le plan d'urgence, ce que demande le SNUIPP-FSU pour l'école, quels en sont les grands axes ?
Il y a réellement 3 axes. Comme je l'ai dit à Erwan au début de l'interview, nous ce qu'on souhaite c'est que l'école ait les moyens de fonctionner correctement et dans de bonnes conditions sanitaires également. L'un des premiers axes réels de nos revendications, c'est les moyens humains des écoles. On demande un recrutement massif pour que les personnels puissent travailler dans des bonnes conditions et que les élèves puissent aussi apprendre dans de meilleures conditions avec justement une mise en place de la distanciation. Le deuxième axe reprend aussi la partie des salaires. Les enseignants démarrent dans le métier avec un salaire de 1400 euros et il faut attendre une vingtaine d'années avant d'arriver à un salaire un peu plus correct de 2000 euros mais très inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Et un troisième axe de revendication, c'est plutôt des questions de métier.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Les questions de métier ?
Oui, oui, oui.
Alors, les questions de métier, c'est... voilà, Jean-Michel Blanquer prend des décisions pour l'école sans tenir compte des revendications de terrain. Les collègues ont des propositions et les avis ne sont pas écoutés, mais Jean-Michel Blanquer fait passer ses revendications en force. Par exemple, après le confinement, il en a profité pour pouvoir recentrer les programmes sur le lire, écrire, compter, en accompagnement ces propositions par des guides qui prêchent la bonne parole gouvernementale et remettant en cause la professionnalité des enseignants. Par exemple, une méthode de lecture officielle est en cours d'élaboration. Cette méthode serait basée sur une méthode syllabique hein, qui n'est qu'un recyclage des vieilles mais des anciennes méthodes en fait. En ce moment aussi, pour lutter contre l'échec scolaire, plutôt que de développer les réseaux d'éducation prioritaire, il signe plutôt la fin progressive de ces réseaux d'éducation prioritaire en mettant en place des contrats locaux d'accompagnement que les écoles, en tant qu'unité, l'école simple, pas le réseau, l'école devra passer un contrat avec son rectorat pour pouvoir obtenir des moyens. Pour nous, c'est un risque de mise en concurrence des écoles et des équipes. La maternelle aussi, en ce moment, elle est attaquée aussi. La maternelle est attaquée avec l'instauration de tests. Alors les tests à l'école maternelle, on n'en voit pas trop l'utilité. Nous dénonçons déjà les évaluations nationales, telles qu'elles sont mises en ce moment, qu'elles sont proposées. Car ces évaluations nationales sont une source d'angoisse pour les élèves et également perte de temps pour les équipes. Alors en maternelle, je ne sais pas si mettre en place des tests nationaux, ça prend en compte le bien-être de l'enfant.
Pourquoi urgence ? Est-ce que c'est lié à la crise sanitaire ou est-ce que c'est un contexte global de l'éducation qui s'aggrave en fait et que cette crise met à jour ?
Les deux. Alors effectivement, la situation s'aggrave, du mal à recruter des enseignants, encore plus vrai dans le second degré. D'ailleurs, le gouvernement est obligé de faire appel à des contractuels pour pouvoir pallier au manque d'enseignants.
Vous m'arrêterez si je me trompe. Actuellement, c'est le Grenelle de l'éducation. Est-ce que ça peut être l'occasion de justement porter des doléances, des revendications, des propositions auprès du ministère ?
Le Grenelle de l'éducation n'est qu'une mascarade. Tout est déjà décidé et en fait, sous couvert de dialogue social, rien ne sera décidé comme il faut. Nous, on demande, voilà, par exemple, cette revalorisation des enseignants ne touchera que 31% des enseignants réellement, puisque ce seront les débuts de carrière qui seront touchés par cette revalorisation et tous ceux qui sont à partir de l'échelon 8, c'est-à-dire à partir de 15-16 ans de carrière, n'auront rien. Cette revalorisation qu'un tiers des enseignants finalement pourraient toucher sera inférieure à 100 euros. Et pour la plupart d'entre eux, inférieure même à 50 euros par mois. C'est très loin de la perte de pouvoir d'achat qu'on a pu avoir depuis le gel du point d'indice. Hein. Cette perte est évaluable à 300 euros par mois quand même. C'est insuffisant. D'ailleurs, en plus, ce Grenelle oublie une certaine catégorie de personnel. Les AESH, par exemple. Alors, les AESH, ce sont les personnels qui sont dans les classes dès les élèves en situation de handicap. Ces personnels ne touchent actuellement que 740 euros par mois et ils ne seront pas revalorisés. C'est largement insuffisant. La prime d'équipement qui est prévue aussi pour les enseignants, d'un montant de 150 euros. Alors, 150 euros, comme j'ai pu le dire à Erwan, c'est très insuffisant pour pouvoir payer nos ordinateurs, nos cartouches d'encre, nos abonnements. Nous, on réclame un montant de 500 euros. Et d'ailleurs, cette prime de 150 euros, c'est pareil, oublie certaines catégories de personnel de l'éducation, comme les formateurs. Nos conseillers pédagogiques ne la touchent pas. Les AESH ne la toucheront pas non plus.
Et en termes d'infrastructures, quels seraient ou même en termes global, quels sont les moyens demandés ?
Alors, dans un premier temps, le recrutement. Le recrutement, et encore plus avec la crise sanitaire. Dans le second degré, alors qu'il y a 2000 élèves de plus, il me semble, qu'il y a plus d'élèves cette année dans le département, il y a une perte de 194 postes. Dans le premier degré, c'est plus un petit peu mon domaine, il y a quelques créations de postes, alors ça va être de l'ordre d'une vingtaine hein, pour le département, une vingtaine de postes qui seront créés, surtout pour mettre en place l'allègement des grandes sections, des CP, des CE1 en éducation prioritaire. Mais c'est loin d'être suffisant. hors éducation prioritaire et les classes de CE2, CM1, CM2 et les autres classes de maternelle, se restent chargées entre 25 et 30 élèves. Ça ne va pas sans poser de questions, hein, justement, ce nombre d'élèves excessif dans les classes. Dans ce contexte sanitaire particulier, il est facile de comprendre que dans une classe de 25, la distanciation n'est pas possible. Au niveau du recrutement aussi, ce qu'on aurait eu besoin cette année, dès le début de l'année, c'est un RAZ fort. Alors le RAZ, eux, c'est des enseignants spécialisés dans la difficulté scolaire, qui viennent en aide aux équipes pour pouvoir justement les aider à travailler avec les élèves un petit peu décrocheurs. Ces RAZ ne sont pas, au niveau du nombre de personnel, ne sont pas à la hauteur. Et cette année encore, il n'y a pas eu de création de poste de RAZ. Pareil pour les formateurs, où leur nombre n'augmente pas, alors que leur mission, elle, se multiplie sans cesse depuis plusieurs années.
Avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte que certains secteurs de la société étaient essentiels. L'éducation en fait partie. On sent aussi que les professions de l'enseignement ont été éprouvées. Enfin, il y a une fatigue qui s'accumule. On lit beaucoup de témoignages, une forme d'exaspération aussi qui commence à s'installer. Est-ce que des journées de grève comme celle-ci, c'est aussi une espèce d'ultimatum lancé ? Est-ce qu'on peut aussi témoigner justement de ce niveau de colère qu'il y a dans l'enseignement ?
Alors effectivement, les enseignants sont fatigués et ils sont fatigués surtout par rapport au manque de préparation du gouvernement. Ça s'est vu pendant la crise, ça s'est vu aussi en début d'année. Les ordres, les contre-ordres s'enchaînent d'une semaine à l'autre, voire d'une journée à l'autre. On n'a pas les mêmes consignes et donc ça a contribué à la fatigue. Les directeurs et directrices d'école ont été corvéables à merci sur les protocoles sanitaires qu'ils devaient modifier du jour au lendemain. Ça a été éprouvant. L'ultimatum, nous l'avions déjà fait en novembre lors de la première grève. Elle n'a pas été écoutée. Donc une deuxième grève, cette fois-ci intersyndicale, plus suivie justement avec 5 syndicats, est mise en place aujourd'hui. Et effectivement, on note quand même une augmentation de la participation du taux de grévistes, qui est de l'ordre de 10 à 15% des enseignants, ce qui est déjà pas mal. On note aussi plusieurs écoles fermées complètement.
Et toujours par rapport au contexte actuel, il y a quand même une grande contradiction entre le fait que on parle actuellement de garder les classes ouvertes malgré tout. Enfin, c'est l'une des préconisations, en tout cas, et notamment du président du conseil scientifique. Et de l'autre côté, du point de vue syndical, ce que vous mettez en avant, c'est aussi des suppressions de postes et des manques de moyens. Enfin, y a une espèce de fossé qui est creusé entre le discours et la réalité.
Garder les écoles ouvertes, il faut au maximum garder les écoles ouvertes. Hein. On ne demande pas une refermeture des écoles, justement. On essaye de demander les moyens qu'il faut pour pouvoir les garder ouvertes. Et ça passe par un recrutement de masse. Si on pouvait diminuer les effectifs de classe pour permettre la distanciation, on aurait beaucoup moins de problèmes. Un recrutement de remplacement aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, il y a des classes qui ne sont pas remplacées. Et s'il n'y a pas de remplacement, les élèves qui devaient être dans les classes sont répartis dans les autres classes. Et en plus du problème de distanciation, on a un problème de brassage qui se met en place. Donc effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est surtout des moyens, dans un premier temps, des moyens humains pour pouvoir justement éviter au maximum d'aggraver la situation sanitaire à l'école.
Il y en a eu quand même depuis le début de la crise sanitaire. Il y a eu des
écoles fermées. Il y a eu quelques écoles fermées. D'ailleurs, encore en ce moment en France, quelques écoles sont fermées.
Mais est-ce qu'il y a eu des moyens apportés pour répondre ?
Très insuffisant. Ouais. Très insuffisant. Là, je peux pas vraiment donner de chiffres. On devait avoir l'an dernier une perte de 40-50 postes dans le premier degré. La crise sanitaire a fait qu'on ne les a pas perdus. Mais on n'a eu aucun moyen supplémentaire. On a fait avec un moyen constant.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci.